Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Avez-vous rêvé de discuter avec Thomas Pesquet, celui qui a la tête encore plus près des étoiles ? Dans l'ISS, la station spatiale internationale qui vole au-dessus de nos têtes, le commandant Thomas Pesquet, qui vient tout juste de rentrer sur Terre, a pu s'adresser à des collégiens, des collégiennes et des enfants de primaire pour répondre à leurs questions. Un court moment hors du temps, fruit d'un projet mené pendant 2 ans par des équipes pédagogiques de plusieurs établissements de la métropole nantaise. Célie Dubost, Sophie Potvin et moi-même Dounia Saez étions sur place le jour de la transmission en direct. Le 12 octobre dernier, plusieurs élèves de l'école primaire Louis Armand de Carquefou et du collège des Sables d'Or de Thoiré-sur-Loire, tous deux en métropole nantaise, ont pu poser leurs questions à Thomas Pesquet grâce à une antenne radio installée par les étudiants de l'IUT de Nantes.
Le dialogue entre Nantes et la Station spatiale internationale a duré 10 minutes et le Labo des Savoirs y était. Et nous n'étions pas les seuls d'ailleurs. En ce début d'après-midi, le hall de l'IUT était noir de monde. Il y avait notamment, président sur une estrade, les messieurs du programme ARIS. Alors ARIS, c'est comme amateur radio sur l'ISS, donc la Station spatiale internationale. Depuis 15 ans, les passionnés de radio-amateurisme échangent depuis la Terre avec les astronautes de l'ISS pour promouvoir la science à l'école. Le programme ARIS s'est associé aux établissements volontaires des écoles primaires, des collèges et cette fois des étudiants et étudiantes d'un IUT.
Et après avoir été décalés à cause du Covid, les passionnés de radio ont pu reprendre la préparation de cette liaison avec l'espace et chacun a prêté de son matériel personnel pour la rendre possible.
Et les enfants étaient bien là. Près de 2/3 des places assises étaient réservées pour eux. Il y avait une classe du collège de Thoiré-sur-Loire et 4 classes de l'école primaire Louis Armand de Carquefou. Et si seulement quelques enfants ont été sélectionnés pour parler lors de l'échange radio, tous et toutes ont travaillé avec leurs professeurs sur des questions à poser à l'astronaute Thomas Pesquet. Et on pourra les écouter en dernière partie de cette émission. L'astronaute français, lui, de retour dans l'espace pour la 2e fois, est commandant de bord depuis bientôt 6 mois sur l'ISS. Lui aussi est un radioamateur et il possède donc un indicatif qui lui est propre et qui permet de l'identifier. Sur Terre, c'est le KG5FYQ. Dans l'espace, c'est le FX0ISS.
L'indicatif, c'est bien, mais c'est surtout la bande radio utilisée qui est importante. La liaison s'est faite grâce à une bande VHF, c'est-à-dire une bande radio de très haute fréquence réservée aux communications spatiales. La longueur de l'onde porteuse est alors de plus de 2 mètres, ce qui correspond à 145,8 MHz. Cette onde radio peut être soit descendante, soit montante, c'est-à-dire que la Terre et l'espace ne peuvent pas parler en même temps. Il faut donc prendre garde à bien alterner, des explications qui nous ont été données par les membres de l'ARALA, l'association de radioamateurs de Loire-Atlantique, que nous pourrons bien sûr retrouver en interview un peu plus tard dans cette émission.
Et les enfants le savent et ils se sont bien entraînés pour ça, mais il faut encore autre chose pour pouvoir parler directement à l'oreille d'un astronaute. Une antenne. Et pas une petite, d'ailleurs. On la voyait depuis la fenêtre s'orienter dans le ciel à la recherche de l'ISS. Longue de 5 mètres, elle aura nécessité près de 3000 heures de travail par les 8 étudiants et étudiantes de génie mécanique et électrique de l'IUT qui l'ont construite. Une première pour eux et pour l'établissement, et on les retrouvera aussi dans la 2e partie de cette émission.
Et le jour J, Sophie, comment était l'ambiance sur place ?
Eh bien, Dounia, je me souviens qu'à 15h, le stress a commencé à monter. La liaison était prévue pour 15h39 pendant seulement 10 minutes. 4 minutes avant, les élèves se sont mis à la queue leu-leu devant le pupitre. Il était trop grand pour les plus jeunes qui ont dû se mettre sur la pointe des pieds pour parler. À l'heure dite, la première élève a posé sa question en terminant bien par « over », signe que c'est au commandant de l'ISS de parler, En réponse, on a juste entendu un grésillement informe sortir des enceintes.
C'est vrai, Sophie, mais il faut se rendre compte que la Station Spatiale Internationale avance très vite, à près de 28 000 km par heure. Elle était en train de faire une belle parabole au-dessus de nos têtes. Alors, pas facile à suivre avec une antenne de 5 mètres sur le toit d'un IUT. Et il ne faut pas oublier non plus l'effet Doppler qui déforme la perception du son.
Oui, c'est vrai que l'opération n'avait rien de simple, et si on sentait un peu la déception, l'exercice a continué. À la troisième question, la voix de Thomas Pesquet se devinait enfin clairement derrière les grésillements. À la cinquième question, on avait l'impression qu'il était là, avec nous. Et le hall, les escaliers, les couloirs et les balcons de l'IUT étaient noirs de monde, mais le silence régnait. Tous et toutes écoutaient attentivement les réponses pédagogues et préparées de l'astronaute aux questions des enfants. Peut-on construire des fusées moins polluantes ? Avez-vous constaté plus de changements liés à l'activité humaine depuis votre dernier voyage ?
C'est quoi la chose la plus amusante à faire dans l'espace ? Pourquoi vouloir habiter sur une autre planète si on ne respecte pas déjà la nôtre ?
Les thèmes écologiques sont donc revenus souvent, puis l'ISS s'est éloigné de plus en plus et la voix est devenue grésillante avant de s'éteindre. L'opération reste un succès, les 8 étudiants et étudiantes de génie mécanique et électrique sont aux anges, leur antenne a fonctionné. Et elle devrait rester en place pour les 5 années à venir, de quoi refaire quelques liaisons radio.
Si vous avez envie de voir ou de revoir le déroulé de cette journée et de frissonner comme si vous y étiez, le replay est disponible sur YouTube sur la chaîne de l'IUT de Nantes. Vous l'avez compris, dans cette émission du Labo des Savoirs, vous allez pouvoir vivre cette épopée avec ceux et celles qui l'ont fait, à commencer par Christian Clot, investigateur du projet.
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà des raisons, j'allais dire, pratiques, parce que le projet ARIS, en fait, on dépose un dossier auprès de l'organisme ARIS international et on est en concurrence avec d'autres organismes de formation, sachant qu'on n'a qu'une dizaine de projets qui sont retenus à l'issue de cette sélection. Donc, il fallait être aussi un peu original. En règle générale, un projet ARIS, c'est un établissement donc qui dépose un dossier. Là, on a souhaité associer les écoles à proximité, donc l'école Louis-Armand et le collège des Sables d'Or. Donc ça, c'est la première raison, c'est pour être original dans le dossier. Et puis la deuxième, c'est aussi par conviction, parce qu'on pense qu'il faut absolument assurer ce continuum de formation entre les plus jeunes et les plus anciens, sachant que c'est à l'époque du CM1, CM2, où on peut créer des vocations, où les étincelles peuvent apparaître, où on peut semer des graines. À ces âges-là, en fait, que tout se prépare pour l'avenir. Donc, la métaphore de semer une graine qui poussera, qui germera ou pas, je pense que c'est une bonne image. Donc, peut-être que dans quelques années, les élèves qui ont participé à cet événement et qui en garderont un souvenir, développeront une sympathie pour les métiers scientifiques et techniques, auront envie de travailler dans un domaine peut-être pas celui de l'espace, mais quelque chose qui aura un rapport plus ou moins lointain avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, il y a une dimension plus personnelle. Vous savez, en 1972, c'était la dernière mission Apollo sur la Lune, Apollo 17. J'avais 9 ans, j'étais en CM2, et l'enseignante de l'époque, il y a maintenant une cinquantaine d'années, avait fait tout un travail pédagogique autour de la mission Apollo 17. Et ça a orienté à la fois mes orientations professionnelles, le goût des sciences, le goût de la technique, et puis aussi par rapport à mes loisirs. Alors, c'est une sorte de boucle qui se boucle, de cycle qui se termine, et en plus, j'ai eu le grand plaisir et la grande chance d'accueillir mon instituteur de l'époque, 50 ans plus tard, sur le site pour la manifestation. C'était pas revu depuis 50 ans. Et je lui rends aussi hommage au travers de cette manifestation parce qu'il a su semer une graine qui a poussé. Et notre espoir, mon espoir, c'est que parmi tous les jeunes qui étaient là aujourd'hui, il y en ait quelques-unes qui poussent dans les années à venir. Pendant ces deux ans, des programmes pédagogiques ont eu lieu dans les écoles. À l'IUT, on a eu des groupes d'étudiants qui ont travaillé sur des parties de la station radio. Dans les écoles, il y a eu d'autres thèmes. Voilà, tout ça constitue un tout. Les étudiants de l'IUT sont allés dans les écoles présenter leurs projets. Les élèves de CM1, CM2 sont venus à l'IUT pour voir comment on fonctionnait, comment on travaillait les étudiants. Ça part aussi d'un constat qu'un étudiant de l'IUT ou de l'université, ça a été à un moment donné un élève de CM1, CM2. Et j'insiste vraiment sur la notion de continuum. Il y a des gros mots dans la langue française, c'est l'école primaire, l'école secondaire et l'école supérieure. Ça pourrait introduire une notion de hiérarchie, il faut pas. Donc il y a pas de supérieur, il y a pas de secondaire ni de primaire, il y a des jeunes et voilà, il faut, c'est dans nos missions de service public de développer ces connaissances, l'envie d'apprendre, l'envie de faire, l'envie d'adhérer à des grandes idées, l'envie de rêver tout simplement. Et donc vous voyez, c'est pas complètement désintéressé non plus, on a aussi envie d'attirer en particulier les filles hein, puisque il y a aussi des codes sociaux qui laissent penser que la technique, la science, c'est pas forcément toujours pour les filles. Donc c'est aussi pour casser ces codes-là et inhiber un peu les tendances régulatrices qu'auraient pu pourraient avoir les filles en disant c'est pas pour moi, ben non, c'est aussi pour vous.
Et c'est une très belle opportunité de se mettre un petit peu à rêver et de se poser des questions aussi sur comment on vit sur Terre, comment est-ce qu'on pourrait vivre dans l'espace et comment qui est posé à une génération, voire plusieurs générations complètes d'enfants et d'élèves.
Les questions qui ont été posées à Thomas Pesquet vont dans ce sens. Il y a beaucoup de questions qui posent le problème du dérèglement climatique. Est-ce qu'on voit le dérèglement climatique depuis l'espace? Est-ce qu'il est envisageable de vivre en dehors de notre Terre? Et ces questions-là, on sent bien qu'elles taraudent un peu les plus jeunes. Et c'est bien aussi de ne pas laisser trop rêver. Vous savez, le physicien Henri Brock avait un dicton qui disait le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Donc on peut rêver, mais il faut pas rêver de travers. Y a qu'une seule Terre. Il n'est pas question d'aller vivre ailleurs. L'évolution de la vie sur Terre a conduit à une espèce qui est l'espèce humaine à être parfaitement adaptée à son milieu de vie. Il n'est pas adapté du tout à l'espace. Il n'est pas du tout adapté à d'autres planètes. Donc laisser partir l'idée que la route de secours existe et qu'on pourra quitter la Terre pour aller vivre ailleurs, je pense que c'est une idée fausse qu'il faut combattre. On n'a qu'une seule Terre. On y est dessus depuis des millions d'années. On y restera peut-être, j'espère, pendant encore des millions d'années. Notre endroit de vie n'est pas autre que celui-là. Donc, il est temps aussi de déconstruire ces idées et le fait que Thomas puisse combattre ces idées au travers de ce dialogue est une excellente chose.
Oui, il faut rappeler que nous n'avons toujours pas de planète B, donc il faut prendre soin de celle que l'on a. Et une communication qui a été rendue possible grâce au radioamateurisme et à la radiotransmission. Et vous avez dit lors de la présentation de ce beau projet que Thomas Pesquet lui-même était un radioamateur. Donc tout le monde, finalement, peut être radioamateur.
Alors tout le monde peut être radioamateur puisque alors le radioamateurisme c'est une activité qui se pratique pratiquement tous les pays du monde à l'exclusion de deux. Le premier c'est le Yémen et le deuxième c'est la Corée du Nord. Bon, pour les raisons que vous pouvez bien comprendre. Donc c'est une activité qui est encadrée par les organismes qui gèrent les fréquences dans les pays avec en chapeau l'Union internationale des télécommunications. Ça veut dire que on peut pas faire ce qu'on veut, c'est encadré. Le type de communication, le type de pratique est aussi encadré. Donc c'est une activité, c'est un loisir technique dans lequel toute une frange de la population peut se retrouver, à la fois des techniciens, des ingénieurs, mais aussi des gens qui ne sont pas spécialistes des techniques de communication. Chacun s'y retrouve et c'est aussi une dimension humaine derrière. Donc dans ces activités-là, vous pouvez côtoyer des gens qui sont spécialistes du domaine et puis des gens qui sont complètement amateurs et qui y trouvent du plaisir. Ce qui relie tout le monde dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, dans une carrière entre guillemets de radioamateur, il y a eu une étincelle. Il y a eu un moment d'émerveillement. Il y a eu quelque chose qui a fait « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et on est tous dans cette situation-là. Donc, si je prends le cas de Joseph Taylor, qui est prix Nobel de physique, À 14 ans, il a eu ce déclic parce qu'on lui a montré quelque chose qui l'a émerveillé. Plus modestement, moi, ça a aussi été mon cas. Mon grand-père qui était un pionnier de la radio, m'a montré un jour quelque chose qui m'a émerveillé. On est tous dans cette situation-là. Et ça vous ne quitte pas. Vous avez ça toute votre vie.
Et on espère peut-être qu'avec cette transmission avec Thomas Pesquet, le virus se propage parmi les élèves et les étudiants qui y ont participé aujourd'hui.
Alors, vu le nombre d'élèves qu'il y avait aujourd'hui, je suis certain que dans le tas, il y en aura quelques-uns qui deviendront radioamateurs. C'est une certitude. C'est statistique en fait. Hein. 12 000 radioamateurs en France, dont sur des manifestations, il y en a forcément, qui ont été émerveillés par ça et qui voudront en savoir plus et qui démarreront petit à petit. Alors c'est faut savoir gérer une passion qui peut être dévorante, bien évidemment, mais qui permet de pouvoir s'exprimer dans des champs complètement différents. Soit vous vous contentez de faire des liaisons en ondes courtes, là vous cherchez la plus grande distance, les conditions les plus acrobatiques. D'autres radioamateurs vont se spécialiser dans les liaisons spatiales, donc vont communiquer, alors, par exemple avec l'ISS quand il y a quelqu'un à bord, mais il y a aussi des réémetteurs qui sont à bord de l'ISS qu'on peut utiliser pour faire du trafic en se servant de l'ISS comme relais. Il y a des satellites radioamateurs, donc il y a toute une frange des radioamateurs qui se sont spécialisés dans les communications spatiales. La plus ultime, c'est par exemple d'utiliser la Lune comme réflecteur. Donc on émet un signal radioélectrique vers la Lune. Il y en a une toute petite partie qui est réfléchie par la Lune et qui est captée par quelqu'un à l'autre bout de la planète. Donc là, on entend nos propres échos, puisque la liaison Terre-Lune-Terre, ça met à peu près 2 secondes et demie. Donc on s'entend parler via la Lune. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Ou alors des radioamateurs vont se spécialiser dans les expéditions. Ce sont des grands voyageurs, donc ils vont aller dans un endroit inaccessible avec une station radio, émettre pendant 2 jours, 3 jours, contacter le maximum de personnes. Il y a des concours qui sont organisés, il y a des radioamateurs qui se spécialisent dans les micro-ondes, dans les hyperfréquences, qui vont en haut des montagnes pour pouvoir communiquer en utilisant par exemple des réflexions sur le Mont Blanc. Il y a des radioamateurs qui se spécialisent aussi dans la réflexion sur des essaims de météorites ou sur des nuages de pluie ou sur des aurores boréales. Donc vous voyez, c'est ouvert. Il y a plein de domaines, il y a plein de secteurs dans lesquels le radioamateurisme peut se développer. C'est selon les goûts de chacun. Donc toutes les clés pour apprendre le radioamateurisme, pour devenir radioamateur, existent sur place. Donc il suffit de s'y intéresser et puis vous êtes pris en main. Et puis voilà, vous devenez radioamateur et puis après, bon vent.
Et bon vent. Et dernière question pour vous, vous qui avez été à l'origine de ce projet, qui l'avait vu naître, grandir et prendre fin aujourd'hui avec le contact avec Thomas Pesquet, qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu sa voix, quand le contact a été établi au bout de tous ces mois de travail?
Alors, c'est une fois de plus la magie de la radio. Quand on parle d'étincelle, c'est une étincelle qui marche tout le temps. Je ne veux pas dire que c'est comme une drogue où il faudrait que la dose augmente à chaque fois, mais pas loin. Là, cette émotion que vous avez quand vous appelez sur une fréquence et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir établir la liaison, le moment où ça arrive, où vous entendez le correspondant, c'est un moment unique. Et à chaque fois, ça fait le même effet. Vous avez tout simplement les larmes aux yeux, vous avez tout simplement une émotion qui monte, vous avez un sentiment de satisfaction, et vous dites ce que vous vivez est extraordinaire. Voilà, à chaque fois, c'est la même histoire et on est tous dans ce cas-là. Et là, c'est très fort, surtout que le début a été un tout petit peu laborieux parce que l'ISS devait être à 2-3 degrés au-dessus de l'horizon. Bon, on est encore dans il y a des phénomènes de diffraction qui apparaissent quand on est dans les couches basses de l'atmosphère. Voilà, la liaison est parfois un peu chaotique au début, donc on a tout de suite vu que dès qu'elle prenait un peu d'altitude, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et c'est toujours la même émotion. On est heureux, tout simplement. On rêve. C'est ce qui donne du piquant à l'existence. Et c'est toujours la même sensation, toujours le même plaisir, renouvelé à chaque fois.
Eh bien, merci pour ce plaisir dans l'espace.
Merci à vous.
C'était Sunrise de Derya Yildirim et groupe Simesk.
Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses.
De retour au Labo des Savoirs pour cette seconde partie, toujours pour parler de cette transmission radio en direct avec Thomas Pesquet. Et Célie Dubost, qui était sur place avec nous, est allée interviewer des enfants qui ont participé à l'opération, ainsi que les professeurs qui les ont accompagnés, le tout suivi d'une chronique de Marie Hilary sur la vie dans l'espace.
Merci. Cool. Alors, première question, vous êtes de quelle école ?
Louis Armand.
Dans quelle ville ?
La ville de Carquefou.
Ok. Dans ce projet, qu'est-ce que vous avez fait ?
On a parlé sur la science, la Lune.
Est-ce que vous avez fait d'autres choses autour de l'espace et de ce projet-là dans l'école ?
Oui, on a un peu travaillé dessus. On a fait surtout des exposés sur l'espace et tout.
Et ça t'a plu ?
Ah oui, j'ai adoré faire l'exposé dans l'espace avec ma meilleure amie.
Et on apprenait et on savait qu'on allait parler avec Thomas Pesquet. Le jour est venu, le jour J.
On a préparé des questions sur l'espace. On va poser des questions à Thomas Pesquet. Et voilà.
Il y a moi et aussi on est 13 dans notre école à poser des questions.
Comment les personnes qui posent des questions, elles ont été choisies dans l'école ?
Grâce à un tirage au sort, on a réussi à réunir les classes de l'année précédente et on a pioché chacun leur tour dans le seau et dire le nom de l'enfant. Et
préparer en fait les questions et elles nous ont donné, il y avait des noms attribués et du coup elles nous ont donné les questions déjà faites.
Est-ce que tu t'es entraînée pour poser ta question ?
Oui, je me suis entraînée quelques midis et le vendredi après-midi dernier à lire, à relire notre fiche, à écouter comment les autres font, à dire over à la fin pour pas l'oublier et le retenir.
Presque tous les midis, on allait s'entraîner devant le micro à bien prononcer toutes les questions.
Ok. Vous avez fait des hypothèses sur les réponses que vous allez avoir à vos questions.
Vu qu'on connaît les questions, on se doute des réponses parfois. Des certaines questions, on se dit que c'est presque sûr qu'ils disent celle-là parce on l'a déjà entendu dire qu'il aimait bien ça ou des trucs comme ça.
Ok.
Oui.
Par exemple.
Le son du saxophone, je me dis que ça a le même. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le même et il en fait beaucoup et j'ai déjà écouté des vidéos de ça sur lui.
C'est quoi ta question ?
La nourriture a-t-elle le même goût dans l'espace ? Je sais pas, à mon avis, elle a un peu le même goût, mais ça change un peu parce que on a travaillé en classe un peu sur comment ils mangent. Enfin, c'est toujours des aliments un peu en barquette. Pour éviter qu'ils volent. Déjà, la façon de manger, ça change, donc je me dis ça doit changer les impressions et tout ça.
Est-ce que vous avez envie de dire des trucs au micro ?
J'ai hâte de pouvoir écouter ce que Thomas Pesquet va dire.
Bonne chance à ceux qui regardent et puis bonne chance à ceux qui posent des questions.
Je suis contente de pouvoir entendre Thomas Pesquet et puis qu'il y ait des questions qui soient posées. Ça va être chouette.
Moi, j'espère que ceux qui regardent la télé, la radio, tout, vont bien écouter les questions et vont bien comprendre déjà les questions et après écouter les réponses pour apprendre des choses que peut-être ils ne savaient pas avant.
Ça arrive qu'une fois dans sa vie, enfin, on pouvait pas le rater. Je parle à quelqu'un de très très connu et ça peut, enfin, je sais pas, ça arrive pas 10, 12 fois dans sa vie. Enfin.
Effectivement, t'as raison. Donc, écoute, je te souhaite beaucoup de courage pour poser ta question et j'espère que ça va bien se passer. Ok, alors je pense que c'est le moment de rentrer.
Au revoir.
Vous êtes les enseignants du collège de Thoiret, c'est ça ? Vous enseignez quelle discipline ?
Moi, sciences physiques.
Moi, je suis en technologie.
Donc, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet ou est-ce que c'est quelque chose, genre, personnellement, vous êtes impliqué dans ces projets d'espace ou juste c'est de la curiosité personnelle ?
À l'origine, c'est un échange que j'ai pu avoir avec Christophe Lowe de l'IUT, avec qui j'avais travaillé durant 2 ans sur d'autres projets et qui m'a proposé ça. J'en ai parlé à mon collègue, M. Marseille, et on a mis les pieds dedans et bien motivés tous les deux.
En fait, au départ, c'était de la motivation. On avait, comme j'expliquais tout à l'heure quand je suis intervenu, c'était une lettre de motivation par notre espace numérique de travail. On avait envoyé une lettre à tous les collégiens de 3e, puisqu'on voulait que ça soit sur le niveau 3e. Est-ce qu'on a fait attention au sexe ? Non. Au niveau de la parité, c'était les plus motivés. Il se trouve que c'était assez bien équilibré. En revanche, quand on a dû sélectionner les questions, on n'a pas regardé filles ou garçons. Et comme vous avez pu le voir, c'est les filles qui sont toutes passées. 7 questions, 7 filles.
Et c'était des temps de travail qui étaient en plus des temps scolaires ?
Alors, c'était sur un créneau fixe, le mardi de 12h30 à 13h30. Tous les mardis pendant 1 heure, oui, c'est en plus autant pour les élèves que pour nous, mais voilà, on avait des élèves motivés et volontaires, hein. Le fait de l'avoir fait sous forme de club, justement, c'était pour éviter la contrainte de faire venir une classe sur des différentes activités alors qu'ils sont pas motivés. Quant à nous, ouais, le mardi c'était un petit peu chargé, mais voilà, et puis avec tout le travail que ça demande aussi de préparation pour chaque semaine, mais voilà.
Est-ce que ça vous donne envie de reconduire ce genre de projet, peut-être sur d'autres thématiques, sur les années prochaines ?
Alors, nous, on a déjà mis les pieds dans le plat, puisqu'en 4e, on travaille sur un EPI, c'est un enseignement pratique interdisciplinaire, avec une collègue de mathématiques et une collègue de SVT qui était présente ici. Et on travaille sur le thème, c'est un thème astronomique, la tête dans les étoiles. Donc oui, ça y est, c'est reparti. Alors c'est reparti, mais sur notre temps disciplinaire. C'est-à-dire qu'on intègre ces savoirs à nos heures de discipline. On n'a pas des heures en plus, comme c'était le cas pour le projet.
Ok, est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, des choses de participer à ce projet ?
Oui, bien sûr, ça apporte toujours des projets. Ça a été une relation très privilégiée avec les élèves également. C'est humainement, c'est très riche, hein. Et puis au niveau du contenu aussi, hein, moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est mon collègue qui est plus branché astronomie que moi, et par l'intermédiaire de ce projet là j'ai appris énormément de choses, et à partir du moment où on apprend, mais c'est riche, voilà.
Nos élèves sont des stars et comme des étoiles, et ce sont des passionnés, comme je disais tout à l'heure, et on a passé une super année avec eux, et encore je profite de l'occasion pour les remercier à nouveau.
Voilà.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci.
C'est un projet qui venait plutôt des enseignants. Et au début, ça devait être que pour une classe. Et finalement, ils ont demandé quels élèves étaient volontaires. Et du coup, on a dû envoyer une petite lettre de motivation pour pouvoir faire partie du club Harris.
C'était pas comme des cours, c'était plutôt comme une activité. Et c'était plus pour nous détendre et découvrir.
Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce projet ?
On a fait plusieurs projets. On a fait par exemple, on a calculé les distances qui séparaient la Terre du Soleil, de Mercure, enfin de toutes les planètes en fait. Et on a fait une maquette dehors sur un terrain de foot. On a fait des petits panneaux avec les planètes et après on a filmé avec un drone pour voir de haut et pour avoir un peu une vision de l'écartement entre les planètes. Et on a fait d'autres projets aussi, mais...
On a rencontré par exemple les Arala, c'est les radios amateurs de Loire-Atlantique. Donc c'est un groupe de messieurs qui sont venus, qui sont intervenus pendant une journée. Ils nous ont expliqué comment fonctionnaient les radios amateurs, qu'est-ce qui fonctionnait, les antennes, etc. Ils nous ont appris beaucoup de notions et c'était hyper intéressant.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que ça vous a donné envie de faire des sciences ? Est-ce que ça vous a donné envie de faire, de découvrir d'autres choses ?
Moi, ça m'a un peu donné envie d'être plus dans le scientifique, mais je me suis rendu compte quand même que c'était assez compliqué, tout ce qui est la radio, c'est très complexe, et du coup,
Moi, les sciences en général, c'était pas quelque chose qui m'attirait, mais là, de parler de l'espace comme ça, je trouvais ça hyper intéressant, qu'il y avait tellement de notions à apprendre, à connaître, et donc, je trouvais ça super intéressant.
Du coup, toi, t'as réussi à poser une question, Gabrielle ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Est-ce que tu étais stressée avant, après ?
Bah oui, j'étais un peu stressée juste sur le moment où je devais parler. Mais j'étais quand même contente de poser ma question et je suis assez fière de l'avoir fait. Et voilà, je suis contente d'avoir pu poser une question sur l'environnement. Et voilà.
On a cherché justement, on a travaillé dessus pour en avoir plusieurs. On en a eu au total 20, quasiment une question pour chaque. On a débattu sur les thématiques, qu'est-ce qui était le plus important. Ensuite, on les a envoyés au projet Harris aux États-Unis. Ils nous les ont corrigés, ils ont fait une sélection et ils nous ont renvoyé donc les questions qu'on avait le droit de poser.
Et on a été très heureuse d'avoir fait ce projet et d'avoir choisi parce que c'est une opportunité unique de parler avec Thomas Pesquet.
Oui, c'était une expérience très intéressante et enrichissante.
Moi, je trouve ça important parce que, par exemple, la science, c'est quelque chose qui, de base, ne m'intéressait pas vraiment et je me suis dit quand même fallait tenter le coup et au final, je ne regrette pas du tout. Donc, il faut vraiment foncer quand une opportunité se présente.
Merci beaucoup. Et je vous libère. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, je m'appelle Anne Moine Stanley et je suis enseignante en CM2 à l'école Louis Armand à Carquefou.
Vous avez fait partie de ce projet pour poser des questions à Thomas Pesquet. Les élèves qui ont posé des questions aujourd'hui ne sont pas les élèves qui ont travaillé sur le projet l'année dernière, si j'ai bien compris.
Alors si, ceux qui ont posé les questions là, oui, mais il y avait d'autres élèves avec nous qui, eux, n'avaient pas participé au projet l'année dernière, puisque les élèves de CM2 de l'année dernière étaient en 6e et on n'a pas pu les faire revenir là. Mais par contre, tous ceux qui ont posé des questions avaient travaillé l'année dernière en CM1 sur le projet.
Le projet, c'est l'IUT qui est venu proposer ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer là-dedans ?
Alors déjà le fait d'aimer l'espace, voilà, c'était déjà à titre personnel. Et on a tout de suite saisi l'opportunité, aussi bien par passion que en se disant, c'est une expérience exceptionnelle à faire vivre à nos élèves, donc on y va. Après on verra, mais on y va.
Est-ce que tous les élèves ont eu la même motivation et le même entrain toute l'année, ou est-ce qu'il y a eu des petits groupes très moteurs sur ce projet où tout le monde était enchanté?
Alors, comme pour tout, il y a forcément des élèves beaucoup plus intéressés que d'autres. Après, ça a quand même porté ceux qui étaient moins enthousiastes au départ. On a vu l'évolution au fur et à mesure de l'année des élèves en début d'année qui n'étaient pas forcément si impliqués que ça, mais qui, à force des rencontres avec le planétarium, les étudiants de l'IUT, les radios amateurs, se sont pris au jeu et ont eu davantage envie de s'impliquer.
Est-ce que vous avez inclus ce projet dans toutes les phases du programme scolaire, donc un peu dans les maths, un peu dans l'art, un peu dans le français, je sais pas, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose à côté?
Alors on a fait en sorte effectivement d'inclure les différents domaines d'apprentissage dans ce projet. Ça a été un fil conducteur pour l'année, donc on a effectivement fait travailler en art, notamment sur on arrive sur une nouvelle planète, qu'est-ce qu'on y découvre, et ils devaient dessiner une planète, la faune, la flore, mais aussi en chant, en poésie, et on a travaillé en français avec le roman sur Thomas Pesquet, sur Le Petit Prince également, et on a inclus tout un tas de matières autour de ce projet.
Ok, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce projet que j'ai pas posé de questions sur ça?
Ce que je peux rajouter, comme je l'ai exprimé un peu tout à l'heure dans la présentation, mais c'est ce côté, les enfants ont vraiment vu qu'avec persévérance, effort, on pouvait réaliser ses rêves d'enfant, et c'est quelque chose qui peut être très moteur pour eux, et se créer des souvenirs comme ça en étant petit, c'est effectivement des graines semées pour le futur, donc c'est une des plus belles réussites de ce projet.
Merci beaucoup en tout cas, et puis j'espère que ça va vous donner envie de continuer à faire d'autres projets aussi.
Merci.
Merci beaucoup. Bon retour.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Je suis en tête à tête.
Ça a l'air vraiment chouette de vivre en apesanteur. D'ailleurs, depuis 60 ans, le rêve est presque devenu réalité. En avril 1961, le soviétique Youri Gagarine est le premier homme à se rendre dans l'espace pour un vol de 108 minutes, le temps de réaliser une orbite autour de la Terre. Depuis, il y a eu le premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969, avec la mission américaine Apollo 11. Puis, en 1998, débute la construction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dont le but premier est de réaliser de la recherche scientifique en orbite. En 2000, la station a accueilli les premiers spationautes. Depuis, de nombreuses missions scientifiques ont eu lieu, dont la dernière en date, Alpha, à laquelle participe notre Thomas Pesquet National. D'ailleurs, en parlant d'expérience scientifique, si vous avez un peu suivi les aventures de Thomas Pesquet, vous devez déjà savoir qu'il a emporté à bord de la station un compagnon bien étrange. Il s'agit d'un blob. Cette créature n'est ni un animal, ni un champignon, ni une plante. Alors c'est quoi ce machin, me direz-vous ? Eh bien, c'est une espèce unicellulaire, c'est-à-dire un organisme constitué d'une seule cellule, qui mange des bactéries et des champignons, notamment dans les sous-bois, et les recycle en nutriments utilisables par les plantes. Et Thomas Pesquet a emmené ce blob à bord de la Station Spatiale Internationale pour étudier les effets de l'impesanteur sur son comportement, pendant que des élèves de 3e d'un collège en Seine-Maritime faisaient exactement la même chose sur Terre. Les résultats seront bientôt analysés, affaire à suivre. Mais revenons à nos moutons. Quelles sont les caractéristiques de la vie dans la station spatiale ? D'abord, il faut savoir que la Station Spatiale Internationale se situe à 350 km au-dessus de nos têtes et tourne à une vitesse de 28 000 km/h. De quoi donner le mal de mer, ou plutôt le mal de l'espace. Car vivre si loin de chez nous, en apesanteur et exposé aux rayons cosmiques, met le corps des spationautes à rude épreuve. La première chose qui frappe dans l'espace, c'est la capacité de l'homme à flotter grâce à l'absence de gravité. Si flotter peut sembler cool à première vue, c'est contraignant pour manger, aller aux toilettes ou se brosser les dents. Pire, l'impesanteur peut avoir des conséquences très graves sur la santé des astronautes. Sur Terre, lorsque nous sommes debout, la pression est plus forte dans nos pieds que dans notre tête. En effet, par gravité, le sang descend dans nos pieds et la pression augmente. Au cours de la journée, la pression dans nos organes s'adapte aux différentes positions prises. Par exemple, lorsqu'on se lève, notre rythme cardiaque et notre tension artérielle augmentent pour compenser l'accroissement de la différence de pression entre nos pieds et notre tête. En orbite, ce différentiel de pression n'existe plus car tout flotte en raison de l'absence de gravité. Les spationautes ont alors la tête bouffie et des jambes de poulet. Les fluides de leur corps se répartissent différemment et leurs jambes perdent par exemple 1 litre de fluide chacune. Le volume de la partie liquide du sang, appelée plasma, varie ainsi que la concentration en certains éléments comme celle en globules rouges. La régulation hormonale change aussi et les reins filtrent plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. L'impesanteur entraîne aussi une désorientation. Haut, bas, gauche, droite, on oublie. Et cette perte d'orientation est due au fait que nous sommes particulièrement bien adaptés à la gravité sur Terre. En effet, nous possédons dans notre corps différents capteurs placés dans notre oreille interne, nos muscles et nos articulations qui nous renseignent sur la position relative des parties de notre corps. Mais en impesanteur, ces capteurs ne détectent plus les changements de position. Lorsque l'astronaute se déplace, il y a donc une incohérence entre le mouvement perçu par ses yeux et l'absence de déplacement enregistré par son oreille interne, d'où l'apparition d'un mal de l'espace semblable au mal des transports. Certains astronautes ont ainsi l'impression de marcher sur la tête pendant 6 mois. La perception des mouvements est elle aussi perturbée. Lorsque les astronautes s'agrippent aux parois de la station et tirent dans un sens, ils ont l'impression que c'est le vaisseau qui se déplace. Alors, soit cette impesanteur est une véritable potion magique, soit elle perturbe drôlement nos amis les astronautes. Enfin, l'absence de gravité joue aussi sur nos capacités physiques. Faire un mouvement demande moins d'énergie. Nos tendons et nos ligaments sont moins sollicités et notre corps perd de sa masse musculaire et osseuse. Pour lutter contre ce phénomène, 3 équipements sportifs sont présents dans la station et les astronautes s'entraînent intensivement pendant 2 heures par jour. C'est pas de tourpeau là. Enfin, l'exposition aux rayons cosmiques est le facteur qui pose le plus problème. Il entraîne le vieillissement des tissus, le risque essentiel est l'endommagement de l'ADN pouvant entraîner des tumeurs cancéreuses. Sur la station, les spationautes sont protégés par le champ magnétique terrestre. Certes, la puissance des rayons du soleil est moindre dans la station que sur la Lune, mais elle reste plus élevée que sur Terre. Ces rayons cosmiques en provenance du soleil sont tout de même un problème à prendre en compte pour de futures conquêtes spatiales, comme celle de Mars. Sur la station, les sorties extravéhiculaires sont rares et donc très contrôlées. Les données d'exposition sont suivies en continu par les détecteurs de rayonnement à bord. Et les missions sont planifiées en fonction des prévisions sur le risque de rayonnement afin qu'elles aient lieu pendant les périodes où les niveaux de rayonnement solaire sont les plus faibles. À toutes ces contraintes biologiques s'ajoutent bien sûr l'isolement et le fait de vivre confiné. On en sait tous quelque chose depuis cette pandémie. Vivre dans l'espace est donc bien complexe et pose question pour une future conquête de Mars. Des campagnes de recherche sont menées par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et coordonnées depuis 2010 par Nathalie Patin, chercheuse en psychologie biologique à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Leur but, étudier les conditions de vie dans une petite station appelée Concordia, et bien terrestre cette fois-ci, située sur le plateau antarctique à 3200 mètres d'altitude. Son équipe analyse quatre éléments stressants qui s'apparentent à ceux décrits dans les missions spatiales, à savoir l'habitat hostile, les températures extrêmes, la situation sociale d'un groupe vivant en autarcie, ainsi que l'alternance de périodes d'activité intense pour obtenir des données scientifiques et d'autres périodes plus monotones. Leur avancée pourrait permettre d'améliorer les conditions de vie lors des vols spatiaux et peut-être d'envisager a posteriori la conquête de Mars. Mais pour le moment, l'impesanteur, c'est comme l'alcool, c'est à consommer avec modération.
Écoutez Météor de Bleu Nuit pour cette dernière partie de l'émission du Labo des Savoirs consacrée au projet ARIS, Allô l'espace, le contact avec Thomas Pesquet depuis l'IUT de Nantes. À propos de l'IUT, nous avons rencontré son directeur Christophe Millet qui nous parle de la jeunesse de ce projet ainsi que Niall McLaughlin qui œuvre auprès de l'ARALA, l'association des radioamateurs de Loire-Atlantique.
Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
Et quelle a été la participation de l'IUT dans ce projet? Il me semble que c'est sur la conception de l'antenne. Comment avez-vous accompagné les étudiants et les étudiantes à cet énorme projet?
Alors dans les formations de l'IUT, hein, donc DUT et BUT, il y a toute une partie projet où les étudiants travaillent en autonomie avec des services de l'IUT, notamment le service technique en appui à l'enseignement, pour la conception, la réalisation d'un certain nombre de produits. Et dans ces produits, parfois, il peut y avoir une dimension commande d'une entreprise, d'une association, d'une collectivité. Et c'est dans ce cadre-là qu'est parti ce projet à l'initiative de Christophe Lowe. Donc on est sur une réalisation complètement technique. Donc effectivement, ils ont fait la réalisation, donc des outils de DAO, de CAO, le tracé, les calculs. Et puis, se sont fait aider par les différents services pour la réalisation technique. Donc le découpage, la soudure, la réalisation. Puis une partie électrique aussi, hein, puisque c'est une antenne qui est motorisée. Donc une conception, réalisation de A à Z par les étudiants et les services qui les entourent.
Est-ce que c'était de l'inédit pour l'IUT de participer à quelque chose d'une telle envergure et surtout pointé vers l'espace ?
Alors, d'une telle envergure, oui, effectivement. Pointer vers l'espace, également une première. Et puis, effectivement, l'unicité de ce type de communication en a fait un événement encore plus grand. Mais oui, effectivement, c'était une dimension assez inhabituelle.
Et que va devenir maintenant cette antenne qui est sur le toit de l'IUT ? Est-ce que d'autres projets sont prévus pour l'utiliser et peut-être continuer à faire de la vulgarisation autour de l'espace ?
Alors, c'est une très bonne question. On travaille effectivement à une continuité sur ce projet, notamment une sensibilisation au radioamateurisme auprès de nos étudiants, soit sous forme d'un club, d'une association, c'est pas encore, mais l'antenne est là, elle va être installée effectivement à demeure et on envisage effectivement d'autres types de communication, cette fois-ci peut-être plus internationale, moins avec l'espace parce que ça sera plus compliqué, mais au moins l'international pour pourquoi pas fédérer effectivement des radioamateurs internationaux.
Moi, j'ai géré le projet ARIS côté administratif et côté organisationnel. Ça fait 2 ans, parce que notre première réunion était donc au mois d'octobre 2019. 2019, oui, tout à fait. On s'est réunis dans la salle avec pas mal de gens très intéressés par le projet. Donc, on connaissait évidemment, nous, on est des radioamateurs. Donc, je suis aussi membre de l'ARALA, donc l'Association des radioamateurs de Loire-Atlantique. Et donc, on sait ce que c'est ARIS. Donc, c'était pas. Voilà. On a invité aussi donc, plein de radioamateurs du département et des départements limitrophes. Et donc, on a eu aussi une petite présentation par l'équipe de la Vendée qui avait fait un contact avec un astronaute japonais en 2015, donc à la Roche-sur-Yon. Donc, il nous a fait un petit retour d'expérience. Il nous expliquait comment ça marchait. Et donc, on a lancé le projet donc, il y a 2 ans, exactement, à quelques jours près.
Le temps que l'antenne se construise, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour préparer le côté technique de cette discussion avec Thomas Pesquet ?
Avant de préparer le côté technique, on a préparé le côté paperasse. Et je ne vous en parle pas. Dans la partie technique, on fait quel est l'espace, quel est le projet, surtout pédagogique, parce que pour les écoles, ça doit rentrer dans le cadre du texte des administrations éducatives. Hein. Donc, du coup, en fait, il y a beaucoup ça. Comment nos projets rentrent dans le cadre éducatif, dans le cadre pédagogique, comment notre espace peut être bien. Donc, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir cet bel espace, le Forum de l'IUT, qui est superbe. Donc, qui nous a bien aidé avec toutes les belles photos qu'on avait. Il y a aussi la partie technique du projet. Donc, on commence à décrire la station 1, la station 2, quel est le matériel qu'on va utiliser. Mais c'est du matériel encore plus récent et encore plus beau qu'on a mis à la fin. Le matériel vient à la fois du Radio Club, à la fois des équipements personnels de beaucoup de radioamateurs, à la fois de près de le Radio Club vendéen, mais finalement, dans les caves, ou plutôt dans les shacks de tous les radioamateurs, il y avait ce qu'il fallait.
Discuter avec les étudiants qui ont construit cette antenne, ils étaient donc 8 et ils nous ont parlé un petit peu du côté technique, mais ils nous ont dit qu'il y a eu des tests qui ont été faits pour communiquer avec l'ISS, mais qu'eux ne les avaient pas faits. Alors est-ce que, effectivement, vous avez testé la communication avec l'ISS avant aujourd'hui? Et comment vous y êtes pris?
Oui, bah finalement, projet ARIS sur l'ISS, ce n'est pas que la communication avec les stations vocalement. Donc ce n'est pas que on parle dans le micro et on cause. Il y a aussi ce qu'on appelle un répéteur de packet. Donc, en fait, c'est les mêmes radios que Thomas Pesquet utilise tout l'air. Il est maintenant switché sur une autre fréquence, dans un autre mode. Et les stations terrestres, les radioamateurs terrestres, envoient des signaux vers l'ISS. C'est un tram avec du texte, comme un SMS. Et l'ISS répète le tram, donc vers la Terre. Donc, nous, on met en écoute, on voit les signaux arrivés et on voit qu'on peut décoder le signal et on peut voir quelle est la station qui a envoyé cette trame-là. Donc finalement, étant en télétravail, j'ai aussi l'occasion de monter l'antenne chez moi et d'écouter lors d'un passage en fait, pour voir s'il y a des choses intéressantes, s'il y a du paquet, donc les trames texte qui est envoyé par les autres stations. Ou on sait quand il y a des images, donc on met une antenne spécifique pour pouvoir améliorer le signal. Donc ça veut dire que c'est constant, c'est tout le temps. Donc même quand on n'est pas en train de faire de l'ARIS, on est en train de le faire.
Garise, vous étiez dans votre bureau chez vous en télétravail, vous écoutiez les signaux envoyés par l'ISS pour peaufiner, pour que le moment venu avec l'antenne de l'IUT, ce soit le message qui soit le bon message et que vous soyez sur la bonne fréquence, etc.
Oui, oui, oui. Pas que moi. Et donc, évidemment, ça fonctionne aussi du... Voilà, c'était la pause café. Donc, j'ai calé mes pauses café pour ne pas que mes patrons fassent la remarque. J'ai pu caler donc mes pauses café au moment des passages ISS. Donc, un passage une heure et 30 minutes, à peu près 36 minutes. Du coup, en fait, oui, on faisait ça. Mais aussi les retraités qui n'ont pas, je dirais, d'horloge de travail.
Combien de temps, justement, à écouter tout ça et à caler pour ce fameux moment aujourd'hui?
Ah bah, le vrai calage pour aujourd'hui, c'est fait depuis à peu près 2-3 semaines. Mais ça ne peut être fait que ici. Donc, voilà, on se donne de l'expérience chez nous. Et ça veut dire qu'on n'a pas de surprise. On sait quelle est la fréquence. On sait comment ça va se passer. On sait que le signal est plus faible quand l'ISS est bas sur l'horizon. On connaît tout ça parce qu'on fait de la maison. Après, en fait, pendant, je dirais, à peu près 3 semaines, l'équipe, donc les retraités qui ont pu passer des journées et des journées et des journées, ont mis les routeurs, ont testé les contrôles de routeurs parce que finalement, ils ont un logiciel qui tourne sur l'ordinateur, qui est mis à jour avec les éphémères, donc les données du passage ISS et d'autres satellites. J'ai des essais techniques, des essais de poursuite avec cette antenne-là, avec les deux antennes, parce qu'il y a deux antennes. Il y en a deux là-haut, oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une station primaire, il y avait une station secondaire. Donc, les stations étaient identiques côté radio. Vous avez vu qu'il y avait deux micros sur l'estrade. Il y avait un troisième micro qui était pour la prise de son de la salle. Mais les deux micros étaient chacune connectée à une radio différente. Même chaque radio avait une paire d'antennes. Il y avait l'antenne qui bougeait et il y avait une antenne fixe de secours. Donc, on avait même quatre. Donc, si on compte, il y avait quatre antennes. L'idée d'un essai, c'est de trouver les pannes. C'est de les réparer. C'est jamais bon du premier coup. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et finalement, c'est pour ça que ça s'appelle une expérience. Voilà, tout le monde jouait le jeu, tout le monde participait à l'expérience, surtout l'équipe technique qui s'amusait bien.
Et pour terminer notre émission, quelques questions à Héloïse Madec et Jason Sarkozy, qui ont tous deux participé au projet de construction de l'antenne avec l'IUT de Nantes.
On a vraiment dû apprendre ce qu'était une antenne, comment, c'est quoi les contraintes. Moi, c'est en haut d'un toit, elle est à 5 mètres de haut. Il y a du vent, donc faut pas qu'elle plie, faut qu'elle puisse résister au vent, faut que les oiseaux puissent se mettre dessus. Et je vous passe tous les détails, mais on a dû réfléchir à tous ces petits détails-là. Et maintenant, on sait faire une antenne. En tout cas, on a réussi à en faire une. Notre antenne va pouvoir tourner selon deux axes. Donc, elle peut tourner sur elle-même. L'idée, c'est de pouvoir pointer l'antenne vers un point spécifique du ciel sur lequel était ou sera l'ISS et la suivre sur tout son trajet dans le ciel. Donc nous, c'était ça notre travail, de pouvoir bouger ces antennes donc de haut en bas et de droite à gauche pour pouvoir faire cette poursuite.
Et ce n'était pas la seule composante de ce projet. Vous aviez travaillé également avec une école primaire et une école, un collège. Est-ce que vous avez pu leur expliquer un petit peu comment ça fonctionnait une antenne radio telle que celle-là?
On a essayé au maximum de leur expliquer, en tout cas, nous, comment on avait fait, comment ça fonctionnait, les démarches qu'on avait entreprises pour du coup arriver à l'antenne qui est sur le toit. Et du coup, on aurait pu aussi leur montrer l'atelier où on avait fabriqué, comment ça a été fabriqué, et leur faire aussi tester pour voir comment ça fonctionne, qu'ils ont pu faire bouger l'antenne et voir qu'elle tourne dans les deux sens. Et ils étaient contents de pouvoir participer un peu aussi, voir et toucher, puis voir comment ça sera le jour J, quoi.
Alors, c'est surtout les enfants, j'ai cru comprendre, du collège et de l'école primaire qui ont posé des questions. Mais peut-être que vous aviez, vous, des questions à poser à Thomas Pesquet. Est-ce que... vous en avez une en tête, par exemple?
Il y avait du coup Jason qui avait eu une idée. Moi, je connais pas trop comment ça se passe sur l'ISS, mais il avait entendu dire que là-bas sur l'ISS, quand on ferme les yeux, on peut avoir des flashs de lumière. Et du coup, il voulait demander est-ce que ça lui était arrivé, et puis comment il ressentait ça, en savoir plus un peu sur ces flashs, est-ce qu'ils existent vraiment et comment ils sont ressentis, on va dire.
Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience, de ces nombreux mois passés à concevoir l'antenne, à communiquer, à préparer tout cet événement? Est-ce que ça vous a permis d'avoir des compétences particulières? Est-ce que vous en avez tiré simplement du plaisir?
On a pu toucher à tout un peu, suivre tout un projet. Et aussi, partie, on va dire, plus communication et humaine. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, on a pu échanger, découvrir et puis apprendre à vulgariser un peu notre projet. C'était très intéressant et c'était un projet qui a apporté beaucoup.
Techniquement, on a énormément appris. On a appliqué tout ce qu'on a appris pendant nos 2 ans à l'école. Rien qu'en soi, c'était quelque chose d'assez génial. Et après, humainement, on a pu rencontrer énormément de monde, que ce soit les enfants expliquer avec des mots simples, quelque chose qui est quand même très technique. C'est un exercice en soi. Et même ce qu'on fait actuellement, parler à différents médias, et expliquer nos projets, rencontrer plein de monde, rencontrer d'autres acteurs, c'était vraiment extrêmement enrichissant. Et honnêtement, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie.
Quand vous avez entendu la voix de Thomas Pesquet, alors au début beaucoup de bruit et ensuite la voix de Thomas Pesquet, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez dit bon, ok, l'antenne marche? Ou vous le saviez déjà? Vous étiez excité, inquiet? Comment ça s'est passé les premières minutes de communication?
Pour ma part, on va dire que je me suis pas forcément posé des questions techniques. C'était plus, je regardais les enfants et je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à poser toutes leurs questions? Et quand du coup les deux demoiselles à la fin ont pas pu poser leurs questions, moi ça m'a vraiment, j'étais aussi émue qu'elle en fait, parce que bah, je me suis dit, mince. Enfin cette antenne, c'était surtout pour les enfants, parce qu'on savait que nous on poserait pas de questions. Donc moi c'était le but qu'elle fonctionne pour les enfants et pour moi après, mais d'abord pour les enfants qui puissent poser leurs questions.
Quand on a entendu la voix de Thomas Pesquet, d'abord très, très brouillée, on n'a pas pu avoir l'explication pendant au début. Et nous, on avait déjà suivi des retransmissions Harris, donc c'est inquiétant. Honnêtement, on entend juste du bruit, on se dit ça y est, c'est foutu. Et puis on se rappelle que c'était le cas avant et que la connexion se améliore avec le temps. Quand on a entendu la voix de Thomas Pesquet, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais pour moi, quand j'ai entendu la voix de Thomas Pesquet claire et nette, c'est bon, on a réussi. Sur le papier, il n'y avait rien qui disait que ça allait pas marcher, mais on l'a fait. Et il y a ce moment-là, et c'était génial.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui sont passées derrière le micro de Sophie Potvin, Célie Dubost et moi-même. Vous pouvez retrouver notre émission ainsi que toutes les autres sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
www.radio-g.fr